Étienne Lermeneau est professeur à l'Institut biblique de Nogent. En plus de cela, il est aussi président de la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, où il donne des cours. Et il est président du Conseil national des évangéliques de France. Éric Wechter est secrétaire général du réseau FEF et il est chargé de mission pour les CAEF dans le domaine de la formation et de l'implantation d'églises. Et sans plus tarder, je leur donne la parole.
Voilà, bonjour à chacun. C'est une joie de pouvoir prendre ce moment pour partager avec vous un sujet qui ne l'est pas joyeux, malheureusement, mais qui est quelque chose auquel il faut réfléchir avec attention. Alors nous partageons les choses ainsi. Je vais essayer de dresser une typologie des motifs de découragement et d'échec dans le ministère. Ce sera une partie relativement brève. Et puis ensuite, Éric va aborder la question de quelle réponse l'Évangile a-t-il à apporter à ces différentes situations. Avant de me pencher sur la réalité des échecs dans le ministère, je l'ai ressenti moi-même de façon intense quand j'ai vu peu à peu les rangs de ceux qui avaient partagé les mêmes bancs que moi à l'Institut biblique Emmaüs se clairsemer. Effectivement, plusieurs de mes camarades ont aujourd'hui abandonné le ministère et parfois même fait naufrage quant à la foi. Cette impression, quoique moins angoissée, s'est aussi renforcée lorsque j'ai eu des responsabilités nationales dans mon union d'église, au point que j'ai fait part de mon inquiétude une première fois à l'Institut biblique de Nogent, je n'y étais pas encore prof, et j'ai fait une intervention sur le thème « Berger, où fuyez-vous ?» C'était en 2004. Puis j'ai eu l'occasion d'étudier le phénomène de façon plus précise dans mon union, la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France. J'ai étudié 15 années de cette union et j'ai apporté les conclusions à la pastorale Île-de-France du réseau de la Fédération évangélique de France, ça s'appelait pas encore réseau FEF. Puis ensuite dans une séance du RESAM. Alors vous avez peut-être lu des choses de moi sur ce sujet. Mais depuis cette période, là ça se situait en 2009 et 2010, il y a eu une thèse de doctorat qui a été soutenue à la faculté libre de théologie évangélique sur le sujet par une certaine Lucie Bardiot-Huys. Le titre de son doctorat, « Quitter ou non le ministère ?», point d'interrogation, une analyse des motifs et du processus décisionnel. Elle a rendu compte de ce travail dans les cahiers de l'école pastorale et je vais le citer à quelques moments de mon intervention. Elle a en particulier mené une enquête sur le terrain en France, en milieu évangélique, parmi les ex-pasteurs, mais aussi parmi les pasteurs en fonction pour connaître leur vécu de ministère, obtenir une réponse à des questions concrètes, et voilà les questions qu'elle posait. Avez-vous déjà envisagé d'abandonner le ministère ? Si oui, pour quel motif ? Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Pourquoi n'avez-vous pas finalement abandonné le ministère ? Son travail a montré que plus de la moitié des pasteurs en exercice en église locale ont envisagé au moins une fois d'abandonner le ministère. Certains, au cours des années qui venaient de passer, au moment où elle a posé la question, et la plupart ont dit qu'ils n'avaient pas trouvé de lieu ou le courage d'en parler. Elle ajoute ceci à propos de l'accueil qui lui a été réservé quand elle a posé ces questions délicates. L'enquête a été très bien accueillie car on donnait enfin la parole aux pasteurs quant à leur vécu et c'était pour eux une occasion pour réfléchir sur l'évolution de leur conception du métier et de la vocation pour dresser l'inventaire de ce qui leur est nécessaire et de ce qui leur fait défaut pour tenir le cap, et le cas échéant de choisir en connaissance de cause de continuer ou non dans le ministère plutôt que de déclarer, comme ce pasteur déjà bien usé répondant à mon enquête, « Je continue parce que je ne sais rien faire d'autre. J'ai 50 ans, j'espère tenir jusqu'à la retraite. » Si je croise les remarques qu'elle fait dans cet article avec mes propres observations, je pense pouvoir dégager quatre grandes causes de découragement et d'abandon dans le ministère. La première est liée à la vocation. La deuxième à un problème d'équilibre personnel. La troisième à un manque de professionnalisme. Et la dernière à des conflits mal gérés. Problème de vocation. Il me semble qu'il y a deux difficultés qui apparaissent parfois dans la vocation d'un certain nombre de pasteurs. La première, c'est que elle est parfois, les collègues ont parfois une vision assez mal définie de l'appel que le Seigneur leur a adressé. Du coup, ils se donnent à tout, faute de discerner clairement ce qu'ils sont appelés à faire précisément, et ils s'épuisent. La deuxième difficulté, c'est que la vocation est parfois mal affermie et entretenue. Et là, Lucie Bardiot dit ceci, un autre élément essentiel pour durer dans le ministère, un peu négligé, c'est la vocation. Elle est, écrit Michael Ross, qui a écrit apparemment un article qui s'intitule « Nurturing the Call, a Lifelong Responsibility », elle est trop souvent considérée comme un trophée sur une étagère, un moment fort, quelque chose dont on est fier, qu'on regarde de temps en temps. Toutefois, il ne faut pas qu'elle devienne un élément statique, la vocation. Elle doit constamment évoluer avec le contexte, être vécue comme une aventure toujours en mouvement, un buisson ardent qui brûle encore. Cela demande des temps de recul, de retraite, mais aussi d'échanges entre pairs ou avec un accompagnateur dans un climat de confidentialité. La vocation entretenue jouera alors son rôle de source d'énergie toujours renouvelable. Et sûrement qu'une des difficultés, c'est que les pasteurs ne trouvent pas beaucoup de lieux où renouveler leur vocation. Deuxième catégorie de motifs d'échec ou d'abandon, c'est le manque d'équilibre personnel. Je vois là deux difficultés. La première, c'est, et j'y mets un point d'interrogation, je me demande si ma génération et celle qui suit n'est pas plus fragile globalement que celles qui nous ont précédées. En tout cas, dans mon travail de professeur à l'Institut biblique de Nogent, il est très certain que les parcours chaotiques de beaucoup de nos étudiants montrent qu'il y a une fragilité plus grande de ceux qui s'apprêtent à servir le Seigneur. En tout cas, dans ma propre analyse, je m'étais rendu compte que quasiment 20% des abandons étaient liés à des difficultés de ce genre. Le deuxième problème dans l'équilibre personnel, c'est la vie de famille. Alors, je ne vais pas être très long, puisqu'on en a entendu parler, mais il est clair qu'une vie de famille négligée est une des causes fréquentes d'abandon dans le ministère. Trouver et préserver un bon équilibre entre la vie de famille et la vie professionnelle s'impose pour durer dans le ministère, mais n'est pas chose aisée. Il faut tenir compte des attentes des paroissiens, des membres du conseil et de sa propre famille, tout en sachant que l'on ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Et dans l'observation que j'ai pu faire dans ma propre union, un tiers des abandons étaient liés à des problèmes conjugaux. Alors c'était soit l'opposition du conjoint au ministère, soit l'échec conjugal avec ou sans adultère, et aujourd'hui il faut ajouter adultère homosexuel ou hétérosexuel, malheureusement. Les questions conjugales et sexuelles sont génératrices d'un nombre non négligeable d'échecs dans le ministère. Ce n'est certainement pas une nouveauté, mais cela témoigne d'une pression sociale forte sur nos familles. Il y a d'une part la pression sexuelle avec un environnement qui brouille les repères et qui génère des tentations auxquelles un pasteur surinvesti dans le ministère peut céder par trop grande proximité avec une personne dont il s'occupe, ou pour combler un sentiment de solitude. Je signale à ma préoccupation ici de formateur que beaucoup de jeunes qui nous rejoignent ont d'énormes problèmes avec la pornographie. Ils se préparent à se servir le Seigneur, mais Internet fait des ravages. Et cette question est souvent un combat qui n'est pas forcément définitivement gagné. Et certains collègues peuvent avoir ces difficultés. Malheureusement, ne trouvent pas toujours ou ne cherchent pas toujours l'aide dont ils auraient besoin. Et puis, il y a évidemment, je parlais de la pression sexuelle, mais on pourrait aussi parler de la pression sociale qui s'exerce sur la famille, qui supporte difficilement les absences répétées du père, auquel s'ajoute, mais on pourrait en discuter, un salaire modeste. Troisième grande catégorie d'échec ou de découragement, c'est ce que j'appelle un niveau insuffisant de professionnalisme. Et là, je pense à trois choses. La première, c'est une formation parfois insuffisante. Vous entendez bien ce que je dis, parfois, hein. D'abord par une théologie déficiente, en particulier en ce qui concerne la conception du ministère. Et ici, Lucie Bardiot fait une remarque tout à fait intéressante. « Sur le terrain, dit-elle, on constate que selon l'idée qu'on se fait du ministère, on en souffrira de manière différente. C'est ce que j'ai appelé la souffrance de la théologie. » Trois exemples l'illustrent. C'est toujours elle que je cite. « Si le ministère est à vie, on culpabilise de ne pouvoir supporter les conditions de travail, on cache son épuisement et on se force à aller jusqu'au bout. » Et elle se demande si là, on n'est pas parfois victime d'une conception du ministère par trop catholicisante. Je laisse l'interrogation ouverte. Deuxièmement, si un ministère béni se manifeste par des fruits visibles et quantifiables, témoignant ainsi de sa qualité, le pasteur souffre s'ils viennent à manquer. Troisièmement, si le pasteur met trop l'accent sur le texte néo-testamentaire où il faut obéir au conducteur, alors il attribuera tout conflit au péché de ses ouailles. C'est parce qu'il ne le considère pas comme conducteur qu'il y a des difficultés. S'il s'appuie sur le texte vétérotestamentaire où on ne peut toucher aux oints du Seigneur, tout conflit sera interprété comme une façon injuste de considérer l'oint qu'il est. Toujours dans la formation parfois insuffisante, il y a, et me semble-t-il là quelque chose d'important pour les lieux de formation, une absence chez beaucoup de réflexion critique sur leur fonctionnement et sur leur pratique. Ce qui revient à dire que l'absence de formation continue dans beaucoup de nos milieux est génératrice de découragement et d'échec. Je cite Lucie Bardiot. Pour être infirmier, enseignant, militaire, la vocation ne suffit plus. Il faut aujourd'hui une formation certaine, des compétences bien définies. Cette même évolution pour accéder au ministère a commencé. Mais les formations, si elles ont bien élevé le niveau des connaissances théologiques académiques, sont encore insuffisantes au niveau pratique. Et surtout, ne prépare pas le futur professionnel à la réflexion sur ses pratiques, à l'échange avec ses pairs. P-A-I-R-S. Les professionnels des secteurs social, médical et éducatif ont appris au cours de leur formation à réfléchir sur leurs actes, à partager avec les collègues leurs ressentis. Ce sont des moyens essentiels pour éviter l'usure professionnelle, pour durer dans un métier, mais qui ne sont pas encore systématiquement intégrés dans la préparation au ministère pastoral. Alors ici, je voudrais faire une remarque. On pourrait croire que les pastorales jouent ce rôle. On pourrait l'espérer. Ma pratique, c'est que les pastorales servent rarement à ça. Et que je suis souvent ressorti frustré des pastorales. On avait parlé d'un tas d'activités, mais on avait très peu pu réfléchir à nos pratiques et les confronter les uns aux autres. Deuxième aspect du manque de professionnalisme, c'est la trop grande solitude dans laquelle le pasteur français exerce son ministère. Je cite à nouveau Lucie Bardiot, « Le pasteur a, contrairement au personnel soignant et éducatif, été conditionné à exercer en solitaire. » Bien souvent en France, le plus proche de ses collègues, au moins dans son union, se trouve à 30 km. Et l'attribution même des lieux d'exercice du ministère fait qu'on peut se trouver parfois à 800 km des copains rencontrés en faculté. Et les mutations rendent difficiles des relations durables, des relations de soutien mutuel. Le partage, alors elle revient à ce que je disais, le partage lors des pastorales ne tient pas compte des sensibilités différentes. C'est une réunion de travail et non une réflexion sur son travail à soi, une impulsion à continuer en tant que corps professionnel sans avoir forcément un rapport avec les difficultés concrètes de chacun. Les conditions d'exercice du métier pastoral exposent le pasteur plus que les professionnels d'autres métiers relationnels à l'isolement et à l'épuisement. Enfin, dernière chose, dans l'aspect d'un niveau insuffisant de professionnalisme, et je vais peut-être vous surprendre, c'est la mauvaise connaissance de soi. Pourquoi je le mets du côté du professionnalisme ? Parce qu'il me semble que dans la préparation au ministère, la connaissance de soi devrait grandir. Et j'ai été victime moi-même, de l'usure liée au surfonctionnement. Vous savez, cette tendance qu'a le pasteur de tout faire parce que les membres ne veulent pas le faire, ceci ou cela. Il y a aussi une mauvaise appréciation des motivations profondes. J'ai longtemps pensé que j'étais animé d'un grand esprit de service pour me rendre compte que j'étais surtout désireux d'être approuvé par les autres, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, j'ai souvent détecté aussi des difficultés dans le fait que des collègues appréciaient assez mal leurs compétences. Et le problème le plus fréquent que j'ai rencontré, c'est les gens qui n'ont pas conscience de leur manque de leadership. Donc ce sont de bons accompagnateurs, mais ils n'ont pas le sens de la conduite du leadership du groupe, mais ils veulent quand même l'assumer. Et en général, cette situation est génératrice de conflits et finit par épuiser ceux qui s'exercent à une fonction qu'ils ne maîtrisent pas vraiment. Enfin, dernière chose, il me semble qu'une des sources de découragement et d'échec, ce sont les conflits mal gérés. Il y a dans nos églises des conflits. Et cela, je le dis tout de suite, n'est pas problématique. Qu'il y ait des conflits dans nos églises fait partie des choses normales. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas toujours gérés et qu'ils deviennent souvent, à cause de l'absence de gestion correcte, ravageurs. Je connais bien des collègues, y compris des amis, qui ont été broyés par des conflits destructeurs. Destructeurs parce que mal géré. Et je vois deux difficultés. Je pense que nous ne sommes pas toujours rompus à une technique utile qui est la médiation et qu'on ferait bien de mieux mettre en œuvre dans nos églises. Mais je pense aussi qu'il manque parfois une capacité d'indignation dans nos églises devant les proportions que prennent certains conflits et leur caractère injuste. Et du coup, ça m'amène au deuxième aspect des conflits mal gérés. Il me semble que dans nos églises évangéliques, à cause de notre congrégationalisme, nous avons souvent trop peu d'instances de régulation. Quand j'ai été secrétaire général de la Fédération Baptiste, j'étais au fond, pour une part, un pasteur des pasteurs. Et j'ai pu parfois dire aux communautés, aux conseils d'église ou aux collègues d'ailleurs, des choses qui pouvaient difficilement se dire entre eux, et c'était nécessaire. Alors, on n'a pas besoin toujours de structures très développées pour faire ce travail, mais on a au moins besoin de courage. Il faut parfois avoir le courage de dire qu'il y a des choses qui ne se font pas, qui ne sont pas acceptables. Et ici, j'aimerais mettre en cause une chose, c'est de croire que la médiation est la solution à tous les problèmes. Alors, je viens de vous dire qu'elle est utile, Mais j'aimerais ajouter, elle ne résout pas tout. Et dans certains cas, il ne s'agit plus de faire une médiation, il s'agit d'arbitrer. Et là, il faut que des structures d'autorité ou du courage fraternel interviennent pour que les conflits soient maîtrisés et parfois que les parties prenantes soient écartées quand elles ne veulent pas se rendre à l'évidence du tort qu'elles causent. Je m'en tiens là pour la typologie, donc des conflits mal gérés, un niveau insuffisant de professionnalisme, un manque d'équilibre personnel et un problème de vocation. Et je laisse Eric poursuivre.
Je suppose que c'était pour Étienne. Merci Étienne pour cette présentation. Donc Étienne est parti à partir de l'observation des faits, à partir de l'expérience. Je vais tenter de faire un éclairage biblique sur cette question donc de l'Évangile face au découragement et à l'échec dans le ministère. L'emphase sera donc sur l'Évangile dans cette seconde partie. Si vous aviez à choisir entre deux candidats pour un poste pastoral dans une église, deux candidats qui ont passé brillamment toutes les étapes du protocole de recrutement, deux candidats à un profil très similaire, mais avec une différence dans un domaine. Le premier n'a connu que des réussites dans son ministère. Le second a connu des réussites, mais aussi des échecs. Lequel de ces deux candidats choisiriez-vous ? Comme vous, ma préférence irait certainement au second candidat. Et vous avez peut-être déjà croisé dans votre vie des hommes et des femmes de Dieu, pour qui un échec dans le ministère a été la matrice utilisée par le Seigneur pour leur faire porter du fruit, beaucoup de fruits. Le président américain Abraham Lincoln disait « Ce que je veux savoir avant tout, ce n'est pas si vous avez échoué, mais si vous avez su accepter votre échec. » On apprend plus de ses échecs que de ses réussites. Premier point dans mon exposé, j'aimerais vous proposer de voir ce qu'est un échec aux yeux de Dieu dans un premier temps. Que nous dit l'Écriture, l'Évangile de l'échec et du découragement ? Posons-nous cette simple question. Où et quand l'Écriture pose-t-elle un diagnostic d'échec dans la vie d'une personne ? Évidemment, sans pouvoir les répertorier toutes, et je vous propose un survol stratosphérique de quelques éléments, mais qui nous disent quelque chose sur la manière dont Dieu voit l'échec. Premier exemple, j'en ai trois. Au sujet des rois d'Israël, lorsque vous lisez les biographies, beaucoup de ces biographies se terminent par cette phrase « Il fit ce que l'Éternel considère comme mal et imita l'exemple de ses pères ». Ces rois avaient pour responsabilité de conduire le peuple d'Israël selon la loi de Dieu, mais leur conduite fut à l'opposé de ce que Dieu attendait d'eux en entraînant au fil des siècles les Israélites dans une décadence morale et spirituelle. C'est un échec. Deuxième exemple, parmi d'autres, Jonas. Mandaté par Dieu pour appeler les Ninivites à la repentance, notre prophète fuit dans la direction opposée à celle stipulée dans son ordre de mission. Et tant qu'il demeure dans son obstination, il est en échec. Dans la même veine, mais avec un personnage, me semble-t-il, un peu plus sympathique, j'appelle Josué. Et je mentionne la première bataille perdue contre les habitants de la ville d'Aï au début de son ministère. Une double faute semble être à l'origine de son échec. Il n'a pas consulté l'Éternel avant la bataille, mais il a placé une confiance relativement élevée dans le rapport de ses espions. Alors, le texte ne mentionne pas de manière explicite cette attitude comme une faute, mais c'est une différence qui apparaît lorsqu'on compare les récits des conquêtes militaires dans la vie de Josué. Par contre, la faute d'Achan, sa désobéissance à l'Éternel, est clairement mentionnée comme la raison de l'échec de la bataille d'Aï. Et nous pourrions évidemment étendre ce genre d'analyse à d'autres personnages de l'Écriture. Je pense à Jérémie, à Ésaïe, Pierre ou encore Paul dans les derniers mois de sa vie. Selon l'Écriture, l'échec est la faute commise par désobéissance à la loi de Dieu ou à sa directive. Et de manière beaucoup plus étendue, nous pouvons dire que l'échec pour l'homme, c'est le refus du salut. Nous nommons ici l'échec suprême selon l'Écriture. L'homme qui s'obstine dans la pratique du péché sans tenir compte des appels à la repentance est en situation d'échec. Par contre, dès qu'il y a repentance ou conversion, l'échec fait place à la réussite. Rappelez-vous Jonas, Josué ou quelques rois d'Israël. Alors, Étienne nous a détaillé il y a quelques instants les causes ou les circonstances qui amènent au découragement et à l'échec, voire à l'abandon du ministère. Et si nous comparons notre point de vue humain, ce que Étienne vient de détailler, au point de vue divin, ce que nous appelons échec, nous constatons de manière franche que nous ne parlons pas des mêmes choses. Ce que nous qualifions d'échec dans le ministère ne l'est pas aux yeux de Dieu. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Ce contraste, nous l'observons aussi dans la personne même de Jésus-Christ. Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Du point de vue humain, la mort de Christ à la croix est un échec. Le faiseur de miracles, celui qui a ressuscité des vies, termine sur la vie, sa vie sur la croix. Or, nous savons que la croix, c'est le moment et le lieu de la plus grande manifestation de la puissance de Dieu. La victoire sur la mort par la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est cette même puissance Dieu met en œuvre la puissance de la résurrection, selon Éphésiens 1, chapitre 1, dans la prière de Paul, c'est cette même puissance, la puissance de la résurrection, que Dieu met en œuvre pour notre propre transformation, pour notre sanctification. En d'autres termes, si vous pensez être en échec, et je reprends ici la définition selon notre point de vue, le point de vue humain, si vous pensez être en échec dans le ministère, si vous pensez être disqualifié sans avenir, si vous portez le poids de la honte lorsque vous vous comparez à vos collègues qui, eux, réussissent, si vous pensez être dans une impasse et que la seule manière pour vous dégager de ces circonstances consiste à quitter le ministère, si vous êtes peut-être déjà en train de chercher un emploi au supermarché du coin, parce qu'il faut bien envisager l'avenir pour continuer à vivre, il y a certainement de l'espoir. J'y reviendrai un peu plus tard. Deuxième point sur mes trois, deuxième chapitre sur mes trois que je propose, je vais reprendre la typologie qu'a énoncée Étienne tout à l'heure, je vais rebattre les cartes et vous proposer une autre manière de catégoriser les éléments que Étienne a mentionnés tout à l'heure. Je m'explique. Je vois trois éléments. Premier élément, je peux être l'artisan de mon propre échec. Deuxième élément, il y a des situations dans le ministère d'échec qui arrivent parce qu'un contexte difficile se superpose à une difficulté ou une fragilité personnelle. Troisième élément, un environnement extérieur difficile peut conduire à l'échec également dans le ministère. Et je vous propose de détailler chacun de ces trois aspects. Alors, je peux être l'artisan de mon propre échec dans le ministère quand le service s'arrête à cause du serviteur. Le cœur de notre ministère, c'est notre service, c'est Christ, c'est la parole de Dieu. Et de manière insidieuse, il peut arriver que Christ et sa parole ne soient plus au cœur de notre vie personnelle. Notre lecture, notre méditation biblique, notre temps de prière occupe de moins en moins de temps dans nos agendas. Ce qui est paradoxal par rapport à la nature même de notre ministère. Entrer dans une belle spirale a des incidences sur des aspects tout à fait pratiques de notre ministère. Tout se dérègle ensuite dans des déclinaisons possibles et variées. Par exemple, une trop grande solitude peut conduire à l'isolement. Une vie de famille qui se dérègle, un agenda surchargé. Et une tolérance d'habitudes qui appartiennent à la catégorie du péché. Des habitudes qui peuvent s'installer dans notre vie. Le péché qui vient s'installer. Et pourtant, nous sommes dans le ministère. Alors, je ne voudrais pas énumérer un remède magique qui serait une sorte d'antidote contre tous ces motifs. Mais j'aimerais insister sur une nécessité, je le concède, elle est peu originale. C'est la prière et la lecture journalière de l'Écriture. Ces moyens de grâce que Dieu nous a donnés pour que nous vivions connectés à lui. Le bon endroit pour puiser nos forces et nous renouveler. Dans la seule épître, les deux épîtres aux Timothée, tant d'exhortations de la part de Paul à Timothée vont dans ce sens. Puise tes forces dans la grâce, dans l'union avec Jésus-Christ. Comment pouvons-nous être unis ? Bien sûr, nous le sommes juridiquement, en vertu de ce qui se passe à la croix. Mais dans notre relation, comment vivre cette union si nous ne passons pas du temps avec notre Seigneur ? De Timothée 2, verset 1. Autre texte, 1 Timothée 4, versets 7 à 9. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Et nous retrouvons dans les moyens de grâce et fondamentaux de la prière et de l'étude de l'Écriture. Il y aurait encore d'autres textes bibliques, je les passe, vous les connaissez. Un corps en bonne santé résiste mieux à la maladie qu'un corps en mauvaise santé. Un corps en bonne santé ne pourra pas éviter l'agression d'un microbe ou d'une bactérie, mais il y fera face dans de bonnes conditions. Personnellement, je suis plutôt du genre actif et j'ai beaucoup de difficultés à me concentrer. Je suis très vite capté par un bruit, un son, une image, une pensée. Et croyez-moi, la discipline de la lecture de l'Écriture, la discipline de la prière et de l'écoute du Seigneur, pour moi, c'est un combat quotidien. Je n'ai pour l'instant jamais réussi à régler cette question de manière définitive par une habitude. Il est plus facile pour moi de se brosser les dents que de se concentrer pour vivre ce temps avec le Seigneur. Et en même temps, je ne pourrais pas vivre sans. C'est mon poumon spirituel. Quand je ne respire pas correctement, quand je ne m'oxygène pas correctement, je vis en apnée. Et c'est peut-être pas la discipline à développer pour un pasteur. L'espérance de vie est limitée dans ces conditions. Deuxième point, dans la manière de réorganiser ou de relire les motifs de découragement et d'échec dans le ministère, deuxième point, lorsqu'un contexte difficile, et je veux mentionner ici la pression que l'église locale peut exercer sur un pasteur, se superpose à une fragilité ou une difficulté personnelle. Lorsque les conditions du ministère deviennent difficiles, et elles le sont à un moment ou un autre dans notre existence, elles se heurtent généralement aux pans les plus fragiles de notre personne, tant physique que psychique. Ce sont eux qui cèdent en premier lorsque l'environnement devient hostile, un peu comme le tronçon le plus fragile d'une digue qui cède à l'assaut des vagues. Et lorsqu'une vague a trouvé son point d'entrée en nous, elle inonde et balaye tout sur son passage. Rien ne demeure à l'abri, et je le transcris par des symptômes tels que la perte du sommeil, relations tendues avec les autres, irritabilité, perte d'objectivité dans le jugement, somatisation, faiblesse physique, psychique. Il faut s'affronter soi-même tout en affrontant les éléments extérieurs. Et il me semble qu'être dans le ministère, plus que toute autre profession, si la comparaison est possible, révèle nos faiblesses et fait souvent remonter à la surface les dossiers non réglés du passé. c'est presque une loi physique. Nous sommes des êtres vulnérables. Nous sommes des êtres fragiles et limités que Dieu utilise, alors ça c'est extraordinaire, dans sa grâce pour accomplir un dessein extraordinaire, pour accomplir un dessein qui est parfait et décidé de toute éternité. Nous devons vivre notre ministère en n'oubliant jamais que nous portons encore en nous les effets de la chute. Nous ne sommes pas encore au ciel. Vous savez, ces entraves profondes qui limitent notre jugement, qui atténuent notre discernement, qui nous limitent dans la connaissance de nous-mêmes, qui nous amènent encore à pécher. La restauration de notre vie est un processus qui commence à la nouvelle naissance lors de notre rencontre avec Christ. C'est à ce moment-là que s'enclenche une transformation qui prendra fin quand ? Lors de notre glorification, lors du retour de Jésus-Christ à la fin de temps. Mais ce processus est en cours, ce qui veut dire que dans notre ministère, nous faisons face à notre fragilité. Paul le dit de manière remarquable, qui nous, je pense, une manière qui nous rejoint dans notre ministère, ce trésor, nous le portons dans les vases d'argile que nous sommes. Pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ces faiblesses et fragilités ne nous disqualifient pas. Puisque Dieu veut manifester sa puissance de transformation au travers de ces fragilités. Je cite la note de la Bible d'étude du Semeur au sujet de ce verset qui dit « Il existe pour Paul des souffrances et des détresses particulières inhérentes au ministère apostolique. » Et Paul y voit un sujet de fierté. Et il me semble, je viens de le dire, légitime de voir dans la fragilité de l'argile nos limites, nos tronçons de digues les plus fragiles, le lieu qui sont en même temps le lieu où la puissance extraordinaire de Dieu va se manifester. Mais souvent, dans de telles circonstances, lorsque la digue cède, nous passons notre temps à essayer de comprendre et évaluer la force de la vague qui nous assaille bien plus que le tronçon qui vient de céder. Mais sommes-nous en mesure d'avoir ce recul sur nous-mêmes lorsque nous sommes dans une telle situation, lorsque la tempête fait rage. Il est possible de prévenir plutôt que de guérir. Et Étienne a déjà mentionné certains éléments qui sont utiles pour prévenir l'échec, tout en retenant que Dieu utilise aussi nos échecs pour nous construire et nous faire avancer. Et je crois que les deux ne s'opposent pas. Il ne s'agit pas d'aller volontairement vers l'échec en se disant « mais c'est le moyen que Dieu utilise pour ». La sagesse de Dieu et le conseil de Dieu dans l'Écriture nous invitent aussi à réfléchir avant de s'investir dans une mission. Certaines missions font passer une batterie de tests de personnalité à leurs candidats missionnaires qui partent à l'étranger, qui ont pour vocation de vérifier la bonne santé. Et s'il y a des fragilités, il vaut mieux les voir avant que de les voir sur le terrain. D'ailleurs, en allant un peu plus loin dans la réflexion, toutes les situations de crise, qu'elles soient liées à des problèmes structurels, organisation de l'Église, cahier des charges mal définis, toutes les situations de crise, souvent, révèlent une posture personnelle. Dit quelque chose de notre manière d'être et de comprendre les choses ou de les vivre. Se préparer avant, deuxième conseil, ça reprend mon premier point, veiller à une bonne respiration spirituelle. Et puis troisième point, on pourrait dire s'équiper d'un miroir et d'une canne. Le miroir parce qu'il renvoie l'image réelle de nous-mêmes et la canne pour nous soutenir. Et je veux parler ici d'un vis-à-vis. Là encore, Étienne l'a mentionné, l'importance d'avoir un vis-à-vis, un tiers extérieur à notre ministère, qui ne soit pas jugé parti, en qui nous pouvons nous confier. La solitude dans le ministère a rarement porté de bons fruits. Troisième et dernier point de ce regard, un environnement extérieur difficile qui conduit à l'échec du ministère. Alors dans cette troisième situation, je parle de ces églises qui peuvent être difficiles à vivre pour les responsables et le pasteur notamment. Ici, la digue ne lâche pas, mais elle est sous pression tant la tempête est forte, au point de ne plus pouvoir, dans certaines situations, exercer le ministère dans des conditions qui sont nécessaires, on va dire le minimum syndical pour exercer son ministère de pasteur. En risquant d'évacuer des nuances dans le propos, mais généralement, c'est le genre de situation qui dégénère en conflit. Et le pasteur devient la victime de son église. Il subit son offense sans pouvoir la plupart du temps se défendre et obtenir gain de cause par rapport à l'injustice subie. Et je parle ici vraiment d'une injustice majeure qui touche fortement à la personnalité du pasteur. D'où la question qui vient tout de suite après, comment poursuivre un ministère lorsqu'on est remis à ce point-là en cause et que l'on a perdu toute crédibilité aux yeux de l'Église ? Souvent, le ministère devient impossible et vous connaissez certainement des situations où cela a conduit à la démission du pasteur. Et il me semble que l'Évangile nous dit quelque chose aussi pour ces situations. Paul, dans un conflit qu'il oppose aux Corinthiens, dit « Ne jugez pas avant le temps, attendez que le Seigneur revienne. » Il y a donc des dossiers qui vont rester non résolus jusqu'au retour de Jésus-Christ, parce que, Paul poursuit en disant, « Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. » Quatrième et dernier point, qui va faire l'objet finalement d'une petite synthèse et d'une petite conclusion. Deux aspects, me semble-t-il, sont importants par rapport à l'échec dans le ministère et la volonté de poursuivre le ministère dans de bonnes conditions. D'une manière ou d'une autre, la problématique du pardon surgit lorsque l'on essaie de faire une synthèse des différentes cas de figure qui peuvent exister par rapport à l'échec dans le ministère et le désir de continuer. D'une manière ou d'une autre, on aura affaire à la question du pardon. Comment poursuivre un ministère lorsqu'on est injustement accusé ? Comment l'offenser, le pasteur en l'occurrence, peut-il survivre sans que l'offenseur, l'Église, ne lui reconnaisse le mal commis ? Lorsqu'une personne est victime d'une injustice majeure, elle court le risque de devenir l'esclave de son offenseur. Ses pensées sont captées par l'injustice de son sort. Et cela peut conduire à l'insomnie, à des heures dépensées, à se refaire un film parce qu'on a subi un tort, une injustice. Et toute son énergie peut être dissipée pour être reconnue comme victime et obtenir la repentance de l'offenseur. Et c'est légitime. La dette contractée nécessite une réponse. Même si dans la durée, la douleur s'estompe, méfions-nous, le temps ne règle rien. Et l'émergence d'un nouveau conflit, aussi mineur soit-il, va raviver toutes les douleurs du passé et va souvent susciter des réactions disproportionnées par rapport au conflit en question. Ce que je suis en train de dire, c'est si quelqu'un a été victime d'une injustice en tant que dans son ministère et qu'il ne règle pas cette question, cela va ressurgir d'une manière ou d'une autre. Alors, comment continuer à vivre si l'offenseur ne se repent pas de sa faute ? Matthieu 18 détaille les conditions du pardon-réconciliation et le cas idéal conforme à l'Évangile est le suivant. L'offensé va voir son offenseur, je vous le résume, pour le convaincre de sa faute. L'offenseur se repent de son péché, l'offensé lui accorde son pardon, l'incident est clos, sur la terre comme au ciel. Il est difficile d'accorder le pardon lorsque l'offenseur n'a pas reconnu sa faute. L'injustice crie, et elle crie tant que justice ne soit pas rendue. Ce qui est vrai par rapport à notre péché, et la manière dont fonctionne la croix de Christ. Il nous faut notre repentance pour que le salut fonctionne. En même temps, tant que l'offenseur n'a pas reconnu son tort à mon égard, je suis continuellement exposé à vouloir me venger, à ressasser son tort, à penser ou à dire du mal de lui, ce qui me met à mon tour dans la situation d'offenseur à son égard. Notre chair nous rattrape. Et dans ces conditions-là, je ne vois pas d'autre chemin possible que celui de la croix. Alors il ne s'agit pas de fermer les yeux sur l'injustice subie, mais de trouver à la croix le lieu où ma propre offense a trouvé son pardon, la force et le courage de bénir mon ennemi et de prier pour lui afin de ne pas me laisser emporter par mon propre penchant d'homme livré à moi-même, c'est-à-dire la plainte, la médisance, la vengeance. Cette attitude ne nous est pas naturelle. Ces sentiments et cette transformation intérieure ne peuvent venir que de Dieu, comme pure grâce. C'est l'action du Saint-Esprit dans notre cœur. Et ce faisant, il nous devient même possible d'avoir la force et le courage de vivre avec les conséquences de l'offense subie. Parce que parfois, il y a des conséquences qui restent et que nous avons apportées. Mais vouloir passer à côté de la croix, c'est forcément s'exposer à une récidive dans la durée du phénomène. Deuxième et dernière observation, je dirais peut-être un petit mot de témoignage personnel en fonction du temps. Il s'agit de chausser les lunettes de Dieu pour regarder notre échec. Et là, je reprends la conclusion d'un article qu'Henri Blocher a écrit sur le succès et les échecs dans le ministère. Voilà ce qu'il dit. L'échec peut devenir le moyen du vrai succès, selon Dieu. Dans la solidarité du monde déchu, nous connaissons l'échec, mais Dieu s'en sert pour réaliser son projet de grâce, triomphe de sa paradoxale sagesse. Je fais une pause. En reprenant ce qui a été dit hier, je crois, par Timothée Keller, rien ne s'oppose à la progression de l'Évangile et de l'œuvre de Christ, même les échecs. Et cette perspective, nous devons, me semble-t-il, continuellement la voir. Je poursuis. L'échec acquiert une vertu pédagogique comme dans l'éducation ordinaire. Même le Fils a, par ce qu'il a souffert, appris l'obéissance. L'échec nous fait marcher sur les traces du serviteur qui, par la mort, échec suprême, a vaincu la mort, qui a vaincu le mal comme mal en le retournant contre lui. Notre échec n'a jamais la valeur expiatoire du sacrifice du Seigneur, mais il peut être l'analogue de la chute en terre du grain de blé. Il peut être la condition de la fécondité du don auquel Dieu nous a aussi appelés. Il me semble que c'est ici la juste perspective pour considérer ce que nous appelons un échec dans le ministère. Accepter que dans ces situations d'échec, Dieu transforme par sa grâce bienfaisante les pans les plus fragiles de notre personne, plutôt que de le voir transformer et éloigner les circonstances extérieures. Je ne peux pas lutter contre les injustices dont je peux être la victime, par contre, ou contre ce qui aurait dû être différent. Mais je peux accepter qu'au travers de ces crises, je sois transformé, corrigé, repris, fortifié par le Maître. Et ce faisant, j'exerce ma confiance en la souveraineté de Dieu qui s'exerce jusque dans les moindres détails de ma vie, et il m'en coûte des fois de ne pas comprendre ce que le Maître fait dans des circonstances d'échec. Pratiquement, il me semble que les conditions d'échec dans ce cadre que je viens de mentionner à l'instant, où Dieu nous transforme, nous corrige. Et nous pouvons peut-être être amenés dans le ministère à des constats tels que, je prends un exemple pratique, quelqu'un qui a été pasteur dans une église se rend compte au bout de quelques années qu'en fait qu'il n'est pas pasteur. Donc dans la catégorie de cette transformation que Dieu opère en nous au travers de nos échecs dans le cadre de la souveraineté de Dieu, je vois toutes ces remises en question auxquelles il nous faut faire face et qui nous interrogent nous-mêmes. Est-ce que je suis à la bonne place dans mon ministère? Est-ce que j'ai manqué de prudence? Est-ce que je n'ai pas été sage dans la manière de gérer mon temps? On peut reprendre tout l'échange qui a eu lieu tout à l'heure entre, au sein du couple Keller sur la manière de gérer la vie de couple. Il n'est peut-être pas nécessaire d'aller jusqu'à sacrifier le service de la belle-mère. Et il me semble qu'en dehors de cette perspective, c'est-à-dire, je le répète, voir dans nos échecs la sanctification que Dieu opère dans notre vie, il me semble qu'en dehors de cette perspective, il n'y a qu'amertume, déception, accusation contre les autres, sentiment d'injustice, blessures profondes qui s'infectent encore davantage dans la durée et dans le temps. Il m'arrive d'observer des frères et des sœurs en Christ qui ont été dans le ministère et qui sont aujourd'hui en fin de course, à la retraite ou au-delà de la retraite. Et leur manière de parler du ministère est significative. Il n'est pas besoin d'être prophète pour voir tous ceux qui, parmi eux, ont réglé les dossiers du passé et ont accepté de voir dans leurs échecs la main de Dieu qui utilisait ses moyens sans jamais le justifier. Et je fais une pause, il me semble qu'il faut bien comprendre que le mal, selon l'Écriture, ne trouve aucune légitimité. Le mal est un scandale en soi. Jamais Dieu n'est pas l'auteur du mal. Et jamais le mal ne trouve une justification de circonstances atténuantes pour être utilisé. Mais dans l'histoire, la période de l'histoire dans laquelle nous vivons dans un monde dans lequel le mal est présent. Et Dieu, et c'est ça qui est extraordinaire, Dieu utilise même le mal sans en être l'auteur, sans le justifier, pour réaliser ses plans parfaits. L'histoire de Joseph, d'un mal, Dieu en a fait un bien. Donc, en dehors de cette perspective, oui, je reviens à mes aînés, oui, c'est visible s'ils ont accepté d'être l'argile entre les mains du potier ou pas. En les écoutant, en les laissant vous raconter ce qu'ils disent de leur ministère, très vite, vous sentez s'il y a de l'amertume ou si au contraire, il y a des témoignages. J'ai vécu dans l'échec, mais voilà ce que Dieu en fait. Et je préfère nettement m'enrichir de cette dernière catégorie de frères et sœurs qui ont été exemplaires aussi dans leur manière de gérer les obstacles.
Merci beaucoup, chers amis.